Radio Kapi.
Le journal Noëlla Luzitu Kabambi.
Tenir ferme dans l'engagement et respecter sa propre parole donnée, l'archevêque métropolitain de Kisangani le recommande aux Congolais depuis la ville d'Isiro à l'occasion ce 2 décembre de la célébration du 60e anniversaire du martyr de Marie-Clémentine Anualité Nengapeta. La révérende sœur de la congrégation des sœurs de Sainte Famille est un modèle de fidélité et d'engagement à suivre, selon Monseigneur Marcel Outembi. Reprise de violents combats depuis cette nuit entre les FARDC et le M23 à Matembe et Outoué, deux villages du territoire de Lubero au Nord Kivu, entraînant le déplacement des habitants. L'attaque a été menée par les combattants du M23 soutenus par le Rwanda contre une position militaire dans les collines de Kasinga, précise le porte-parole du Front Nord des FARDC. L'invité de ce journal s'appelle Patrice Vahart. Il est le directeur du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme et représentant du Haut Commissaire des Nations Unies en RDC. Il vient de séjourner à Bunia, province de l'Ituri. Bonjour à tous et bienvenue à cette édition d'information. L'archevêque métropolitain de Kisangani recommande aux Congolais le respect de la parole donnée. Il leur demande aussi de tenir ferme dans leur engagement. Monseigneur Marcel Outembi Tapa s'est ainsi exprimé ce lundi 2 décembre à l'occasion de la célébration du 60e anniversaire du martyr de la révérende sœur Marie-Clémentine Anualité Nengapeta. Pour le prélat catholique, Anualité est un modèle de fidélité et d'engagement à suivre. Suivez les propos de Monseigneur Marcel Outembi Tapa dans cet extrait choisi par Jacques Moukonkolé.
Le contexte sociopolitique dans lequel nous vivons aujourd'hui n'est peut-être pas différent de celui dans lequel a vécu Anualité, particulièrement dans la part est de notre pays, la République démocratique du Congo. Les guerres, les groupes armés qui sèment la destruction, la mort et le déplacement des populations innocentes. Aujourd'hui, plus que jamais, dans l'effort de une société plus juste et plus fraternelle, le peuple congolais a besoin de chrétiens, de modèles, des témoins de Jésus-Christ qui ont vécu comme nous la souffrance, qui, sa foi au Christ, ont été témoins de son amour et de sa fidélité. La bienheureuse Anualité est un grand modèle pour nous. Sa vie était témoin, un message fort à la nation congolaise, notre pays, au peuple de l'Afrique et à l'humanité tout entière. Modèle d'intégrité, de force morale, modèle de respect de la parole donnée, modèle du courage prophétique.
Bien entendu, la ville d'Isiro, chef-lieu de la province du Haut-Uele, fait le plein ce lundi pour commémorer les 60 ans de l'assassinat de la bienheureuse Marie-Clémentine Anualité Nengapeta. Mais qui a été cette religieuse catholique portée à l'honneur ce jour, Blaise Ndongala Mayanda?
Née d'une famille animiste du Congo belge dans les territoires de Wamba, province du Haut-Uele, Anualité Clémentine Nengapeta reçoit le baptême en 1941, affirme des sources religieuses. Selon les mêmes sources, la jeune Clémentine, à l'âge de 16 ans déjà, souhaite devenir religieuse et trop jeune, elle sera refusée par les sœurs de la congrégation Sainte Famille. Mais un jour, au passage d'un camion à la mission pour amener les postulantes au couvent de Bafouabaka, ajoutent les mêmes sources, Anuarit profite de l'occasion et s'hisse clandestinement dans ses véhicules. En 1964, alors qu'éclate la rébellion de Simba, la sœur Marie-Clémentine Anuarit a été aussi capturée que les autres religieuses de sa congrégation. C'est alors qu'un des chefs de Simba, avec l'aide de son lieutenant, essaye sans succès de convaincre Anuarit de devenir sa femme. Furieux devant ses refus répétés, ce chef rebelle l'a tué d'un coup de lance alors qu'il était âgé de 24 ans. C'est en 1985, soit 21 ans après son assassinat, que Marie-Clémentine Anuarit Nengapeta a été béatifiée par le pape Jean-Paul II.
Au Nord Kivu, des violents combats ont éclaté dans la nuit de dimanche à ce lundi entre les FARDC et le M23 à Matembe et Outoué, deux villages situés dans le territoire de Lubero. Jusqu'à ce midi, ces combats se poursuivaient toujours, notamment sur les collines de Itonji, Katua et Kilongwe, qui sont sous le contrôle de l'armée et situées à une vingtaine de kilomètres de Kanyabayonga. Selon le porte-parole du Front Nord des FARDC, l'attaque a été menée par les rebelles du M23, soutenus par le Rwanda, contre une position militaire dans les collines de Kasinga. Ces affrontements ont provoqué un déplacement des populations. André Kitenge.
C'est tôt ce matin, vers 5h heure locale, que les hostilités ont repris entre les FRDC et les M23. Des témoins locaux signalent que les rebelles ont d'abord attaqué les positions des FRDC dans les villages de Matembe et Outoué et les détonations d'armes lourdes étaient audibles jusqu'à Kirumba. Selon le lieutenant Rigen Mbouy, porte-parole du front nord des FRDC dans la région, les combats se poursuivaient encore ce matin.
C'est depuis hier aux environs des 23h que les M23 RDF ont attaqué l'une de nos positions au village Matembe, dans les collines de Kasinga des Antennes, situées à plus ou moins 7 km de Kasege. Comme vous le savez, toujours dans le sud de Lubero, et jusqu'à présent, les tirs sporadiques se font entendre entre les FARDC et ses ennemis de la paix, les RDF et ses alliés du M23. Les FARDC sont toujours en train de contenir cette attaque pour repousser encore une fois de plus cette agression.
Pendant ce temps, un déplacement des populations est signalé dans la région. Certains habitants fuient les combats en direction de la commune rurale de Kirumba sous occupation du M23. Ces affrontements interviennent malgré l'accord de cesser les feux en vigueur que les FRDC accusent le M23 d'avoir violé. André Kitenge, Beni Radio Okapi.
Toujours au Nord Kivu, en plus bref, dans le territoire de Beni, 15 personnes ont été tuées dans la nuit de dimanche à ce lundi dans une nouvelle attaque attribuée aux rebelles des ADF au point kilométrique 20 sur la route Mbao-Kamango. Selon la société civile locale qui livre l'information, il s'agit là d'un bilan provisoire car plusieurs autres personnes sont encore portées disparues. Deux maisons ont été également incendiées après avoir été pillées par les assaillants, indique notre source. Cette attaque a provoqué un mouvement des populations. Des témoins sur place affirment que c'est grâce à l'intervention des soldats des forces conjointes FRDC-UPDF que ces rebelles des ADF ont pu prendre la fuite. Pendant ce temps au sud Kivu, des combats violents sont signalés dans les hauts plateaux de Fizi et Mwenga depuis le jeudi 28 novembre dernier. Ces combats opposent les FRDC à la coalition des groupes armés Twinganeho, Ngumino et Rukunda Makanika. Ces derniers ont tendu une embuscade aux forces loyalistes en patrouille dans la localité de Kalindi, secteur d'Itombwe. Les affrontements se sont poursuivis durant le week-end. Jean Kassami pour les détails.
Des sources sur place ne donnent pas pour l'instant des bilans des affrontements, mais elles confirment que la population fuit Kalindi dans le territoire de Mwenga vers Minembwe, en territoire voisin de Fizi. L'administrateur Sami Kalonji du territoire de Fizi témoigne l'arrivée massive des populations qui fuient les zones de combat.
Ces affrontements se sont déroulés précisément dans le village de Kalindi, Kitavi et Ilundu. Un afflux de la population fuyant ces affrontements est signalé au village Minembwe, parmi lesquels les enfants, les femmes et les vieux. Le bilan jusque-là reste inconnu. Aujourd'hui, lundi, il est prévu une grande réunion de pacification par les commandants de la 21e brigade d'intervention.
Les chefs honoraires du secteur de Lulenge confirment que 3 jeunes motocyclistes sont tombés dans une embuscade de la coalition rebelle. 2 ont été tués et un autre grièvement blessé. Les porte-parole du secteur opérationnel Sokola 2 Sud-Sud, cité par des médias locaux de Bukavu, parle quant à lui de 5 combattants tués et 3 blessés dans les combats vendredi dernier. Les acteurs de la société civile affirment que le nombre de 5 morts, dont 2 militaires FRDC et 3 miliciens avec plusieurs blessés enregistrés de part et d'autre. Jean Kassami, Bukavu, Radio Okapi.
Depuis la ville de Lubumbashi dans le Haut-Katanga, nous apprenons que le colonel Ange Félix Mangwala et ses co-accusés ont été condamnés ce vendredi par la cour militaire du Katanga, siégeant en matière répressive. Poursuivi entre autres pour enlèvement d'un étudiant au grand séminaire de Tchamalala à Lubumbashi, cet officier militaire est aussi accusé par l'archidiocèse de Lubumbashi de spolier le terrain abritant ce grand séminaire, ce qui était à la base du kidnapping du séminariste. Pour l'archevêque métropolitain de Lubumbashi, il est inadmissible que ceux qui n'ont pas de titre continuent impunément à occuper illégalement cette concession. Jean Gando.
C'est de cette manière que l'audience de ce vendredi a commencé avant que la cour ne rende son verdict. Poursuivi pour violation de consigne, incitation des militaires à commettre les actes contraires au devoir, dissipation des munitions de guerre et enlèvement, le colonel Ange-Félix Mangwala écope de 20 ans de servitude pénale principale. Il va payer aux parties civiles, représentées respectivement par le séminariste John Chipoya et le grand séminaire de l'archidiocèse de Lubumbashi, 10 000 et 20 000 dollars américains, payables en francs congolais. En outre, il est renvoyé des forces armées. Ses co-accusés sont condamnés à 10 ans de servitude pénale principale et au paiement de frais d'instance. Un autre prévenu a été acquitté faute de preuves. Notons que les faits qui leur sont reprochés remontent au lundi 18 novembre dernier. Un séminariste a été enlevé pendant qu'il était dans la concession du grand séminaire de Tchamalalé et amené ailleurs. Au cours de cet incident, le principal incriminé avait fait usage d'armes à feu et incité ceux qui l'accompagnaient d'en faire autant. Tous les condamnés ont 5 jours pour interjeter appel. Lubumbashi, Jean Gandou, Radio Kapi.
La procureure générale près la cour d'appel de l'Ituri met en garde les fabricants et exportateurs des boissons fortement alcoolisées. Dans une déclaration faite à la presse samedi lors de la rentrée judiciaire, Eudoxie Maswama dit avoir déploré plusieurs cas de meurtre, accidents de circulation et autres dépravations de mœurs dues à la prise abusive de ces boissons dont la forte teneur en alcool n'est pas clairement quantifiée. Une menace pour la santé des jeunes filles et garçons consommateurs de ces liqueurs, affirme Eudoxie Maswama. Le point avec Jean-Claude Lokidile.
La procureure générale près la cour d'appel de l'Ituri évoque également des cas de viols, vols et autres crimes attribués à des jeunes qui prennent ces boissons frélatées. Elle déplore aussi les conditions hygiéniques dans lesquelles ces boissons sont fabriquées, y compris localement. Eudoxie Maswama explique que sa démarche vise à alerter la communauté sur ce fléau qui prend des proportions inquiétantes. Elle dit avoir demandé aux services spécialisés d'effectuer leur travail en vue de préserver la santé de la population.
Nous voyons cet alcool qui sont produits plutôt dans des situations qui ne respectent pas l'hygiène, avec une teneur d'alcool que des fois qu'on ne sait même pas déterminer. C'est une interpellation et même un moratoire que j'ai donné à tous ces fabricants et aux importateurs. Nous allons vraiment nous mettre à l'action et essayer de voir ce que nous pouvons faire pour protéger notre population de ces fléaux-là. J'ai vraiment appelé l'OCC à s'impliquer davantage. J'ai également interpellé les services de l'économie, celui de l'environnement et même de l'industrie. S'ils ne font pas bien leur travail, nous aurons toujours ces boissons fortement alcoolisées qui conduisent même à des accidents mortels et même au meurtre entre jeunes gens pour des raisons futiles.
La procureure générale de la cour d'appel de l'Ituri a par ailleurs invité les parents, les éducateurs ainsi que toutes les autres couche de la population à s'inviter dans ce combat afin d'éviter à ces jeunes d'hypothéquer leur avenir. Bounia, Jean-Claude Loki, Dile, Radio Kapi.
L'Organisation mondiale de la santé appelle les dirigeants de diverses nations et les citoyens du monde entier à défendre le droit à la santé en s'attaquant aux inégalités qui entravent les progrès vers l'élimination du sida. C'est le message que lance cette année l'OMS à l'occasion de la commémoration hier, 1er décembre, de la Journée mondiale de lutte contre le VIH-Sida. Cette journée est célébrée sous le thème « Suivant le chemin des droits, notre santé, nos droits ». Un résumé du message de l'OMS nous est proposé ici par Billy Ivan Lutumba.
Le monde peut mettre fin au sida pour autant que les droits de toutes et tous soient protégés. En plaçant les droits humains au centre et les communautés en tête, le monde est en mesure d'éliminer cette menace pour la santé publique d'ici à 2030. Se joignant à ses partenaires et aux communautés pour commémorer la Journée mondiale du sida 2024, l'OMS exhorte ainsi la communauté pour se liguer contre la pandémie. L'organisation reconnaît des défis importants à relever pour recenser et soigner les cas et, avant toute chose, prévenir des nouvelles infections. La stigmatisation et la discrimination envers les malades doivent coûte que coûte être combattues. Dans l'objectif de mettre fin au sida, l'OMS recommande d'accorder la priorité à tous ceux et à toutes celles qui vivent avec le VIH, qui sont exposés au risque d'infection ou qui sont infectés par le virus, notamment les hommes ayant des relations sexuelles avec d'autres hommes, les transgenres, les consommateurs des drogues par injection, les travailleurs du sexe, les détenus et les autres personnes vivant en milieu fermé ainsi que leurs partenaires. La santé est un droit humain. Protéger le droit à la santé signifie garantir l'accès aux soins de santé pour tous sans discrimination aucune, quel que soit le statut sérologique, les antécédents, le sexe ou le lieu de résidence, soutient l'Organisation mondiale de la santé.
Retour au Sud Kivu pour parler de Bukavu. Cette ville est de plus en plus isolée de tous les 8 territoires de la province du Sud Kivu à cause de la dégradation très avancée des routes aux alentours de la ville. Affirmation samedi du député national Olive Mudekereza au cours d'un point de presse. L'élu de Bukavu recommande au gouvernement congolais la réhabilitation des principales routes de la ville et il demande aussi d'en faire une de ses grandes priorités. Ces propos ont été recueillis par Jean-Désiré Kanyama.
Concernant les routes, vraiment, c'est la priorité des priorités. Ici, à l'Assemblée nationale, presque tous les députés, parce que c'est toute la République démocratique Congo qui est touchée par les problèmes des routes. Il y a vraiment une forte dégradation des routes. Regarde la route RND pour aller à Walungu. Aller même à 10 km, c'est impossible aujourd'hui. Pour quitter Bukavu, aller vers Shabunda, Mwenga, Walungu, Kabare, est impossible. Vice-versa. J'avais fait une proposition depuis l'année passée pour dire il faut avoir les brigades d'entretien routier. Donc, à chaque 100 km, que chaque territoire, on les dote avec une brigade d'entretien de route. Et en attendant qu'on ait des routes asphaltées. On a asphalté vers Nyangezi, mais si on ne termine pas en Ngomo, ça ne sert à rien parce que ça va être un blocage. On a promis 30 km jusqu'à Mugogo. On n'a pas encore même fait 1 km, ça fait une année. Imaginez-vous, aujourd'hui on ne peut pas accéder jusqu'à Hombo, on ne peut pas aller jusqu'à Minova, on ne peut pas aller jusqu'à Baraka. Comment voulez-vous qu'un pays se développe?
Actualité internationale.
L'ONU a qualifié ce lundi la situation à Gaza d'épouvantable et apocalyptique. L'Organisation des Nations Unies avertit en effet qu'exposer les Palestiniens aux conditions auxquelles ils sont confrontés dans le territoire pourrait s'apparenter aux crimes internationaux les plus graves. Ouvrant une conférence au Caire visant à accélérer l'aide humanitaire à la bande de Gaza, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a exhorté dans son discours, lu par son adjointe Amina Mohamed, la communauté internationale à jeter les bases d'une paix durable à Gaza et dans tout le Moyen-Orient. Les organisations d'aide internationale ont à plusieurs reprises tiré la sonnette d'alarme sur les désastres humanitaires en cours à Gaza, avertissant que la population, quelque 2,4 millions d'habitants, est au bord de la famine. Selon elle, les livraisons d'aide atteignant le territoire sont désormais au plus bas depuis l'attaque meurtrière lancée le 7 octobre 2023 par le Hamas dans le sud d'Israël qui a déclenché la guerre en cours. Israël, qui impose un siège total au territoire contrôlé par le Hamas, blâme de son côté l'incapacité des organisations humanitaires à gérer et à distribuer des grandes quantités d'aide. Le blocage de l'aide à Gaza n'est pas une crise logistique, mais plutôt une crise de volonté politique et de respect des principes fondamentaux du droit international humanitaire, a rétorqué de son côté M. Guterres ce lundi. Pour rappel, et selon le ministère de la Santé du gouvernement du Hamas à Gaza, plus de 44 000 personnes ont été tuées en près de 14 mois de guerre entre Israël et le groupe islamiste palestinien, des chiffres jugés fiables par l'ONU.
L'invité.
Le directeur du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme et représentant du Haut Commissaire des Nations Unies à RDC a achevé ce lundi sa visite à Bunia. Durant son séjour au chef-lieu de la province de l'Ituri, Patrice Vahard a visité la prison centrale de Bunia et a échangé avec les différentes personnalités ainsi que des organisations de défense des droits de l'homme. Patrice Vahard est l'invité de ce journal. Dans cet entretien avec Jean-Claude Lokidili, il revient sur l'essentiel de sa mission en Ituri. Suivez.
Patrice Vahard, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le directeur du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme en RDC. Oui. Vous êtes quasiment au terme de votre visite à Bunia. Vous avez échangé avec le gouverneur de province de l'Ituri, les organisations de défense des droits de l'homme, la société civile également. Que retenez votre entretien avec toutes ces personnalités, quoi?
Je retiens que nous avons une très franche collaboration entre la MONUSCO et les autorités de l'Ituri parce que nous poursuivons le même objectif, celui de la paix, du retour à la paix dans cette région qui, pendant trop longtemps, a souffert des affres du conflit armé. La seule chose que j'ai vue aussi en interagissant avec les populations, c'est une convergence de vues sur l'essence, le caractère très important de la paix. Je crois que la paix est, pour les populations que j'ai rencontrées, le facteur qui va enclencher d'abord le vivre ensemble, mais également le développement personnel et collectif de cette région, qui est une très très belle région. Hein. C'est pour ça que je disais que je vais certainement revenir ici, pas seulement pour travailler pour la paix, mais pour vivre ce climat exceptionnel de la région de l'Ituri.
Vous avez été à la prison centrale de Bunia, vous avez constaté les conditions dans lesquelles vivent ces détenus. Ensuite, vous avez rencontré les responsables de la justice militaire. Que comptez-vous faire à votre retour à Kinshasa pour améliorer les conditions carcérales de ces pensionnaires ou ces personnes? C'est vrai que la charge première revient à l'État en tant que partenaire, parce que vous avez dit que vous êtes le porte-parole des Vénénituri en tant qu'ambassadeur. Vous allez rencontrer les hautes autorités du pays. Que comptez-vous faire à votre retour à Kinshasa?
Dans la prison centrale de l'Ituri, j'ai été d'abord dans le comptoir des femmes et j'ai plaidé auprès du directeur de la prison. Je compte le faire aussi auprès de toutes les autres autorités pour qu'une considération particulière soit faite à la situation des femmes. Je sais qu'il y a un programme de désengorgement des prisons qui est amorcé d'ailleurs par les plus hautes autorités, notamment par le garde des Sceaux, ministre de la Justice depuis Kinshasa. Les Nations Unies soutiennent cette démarche-là. Mais ici, dans l'Ituri, j'ai vu que les autorités judiciaires travaillent activement avec la direction de la prison pour élargir celles et ceux qui remplissent les conditions d'être libérés. J'ai pu noter qu'il y a beaucoup de cas de détention préventive. Je crois que ce n'est pas l'exclusivité de l'Ituri. C'est un peu partout dans le pays. Et donc, on doit conjuguer nos efforts avec l'autorité judiciaire pour réduire la population carcérale, surtout réduire ceux qui sont en détention préventive.
Vous avez donc réitéré l'engagement du Bureau de Conseil des Nations Unies aux Droits de l'Homme de travailler aux côtés des autorités de la justice pour améliorer les conditions de détention des prisonniers. Concrètement, que comptez-vous faire en termes de projets? Vous avez évoqué notamment l'appui en termes des audiences foraines qui se tiennent juste dans le but, tant soit peu, de désengorger ces prisons.
Oui, nous continuons à mobiliser les ressources, à déployer tous les moyens qui sont à notre disposition pour augmenter les audiences foraines. Il faut faire en sorte que le justiciable et la justice puissent se rapprocher. Nous savons qu'il faut beaucoup de moyens pour avoir suffisamment de cours et tribunaux sur toute l'étendue du territoire. Mais en attendant, puisque la justice est un service public, nous sommes là pour soutenir les efforts des autorités. Au-delà des audiences foraines, nous apportons aussi une assistance médico-légale. J'ai ici en Ituri des médecins légistes qui déjà ont participé cette année uniquement à 15 autopsies, et nous menons des missions conjointes avec les autorités judiciaires dans ce cadre-là. Donc c'est pour dire que nous comptons véritablement, pas seulement le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme, mais toute la famille des Nations Unies, le PNUD notamment. Mais évidemment, aussi longtemps que la MONUSCO est ici, nous allons continuer à bénéficier de l'appui et de toutes les ressources de la MONUSCO pour accompagner les autorités judiciaires dans la lutte contre l'impunité.
Patrice Vahar, je vous dis merci.
Merci.
Et c'est la fin de ce journal mis en onde par Dieudonné Nyangasa et présenté par Noéla Luzitu Kabambi. Le tout dans une coordination de Élisée Chikota Chivueta. Merci à vous tous de nous avoir suivis.